Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Clara Schumann, 1818-1896. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui était pianiste et compositrice, de celle qui s'est mariée contre la volonté de son père, de celle qui était amoureuse et qui a fini par s'oublier. Les images de Clara Schumann sont comme un résumé de sa vie. Très jeune, elle a le cou fin et délicat, la peau claire, les épaules dégagées, de grands yeux pensifs, un air modeste et les cheveux noués bas sur la nuque. Ou alors, accoudée à une table dans une robe noire aux manches translucides, un col de dentelle blanche souligne son cou, ses cheveux sombres sont séparés en deux bandeaux sages, elle a l'air parfaitement romantique. Sur une autre, elle pose avec Robert, elle est assise au piano, lui semble l'écouter, ils sont peut-être en train de composer ensemble. Et puis au fur et à mesure, des années, des renoncements, des grossesses et des deuils, la fatigue s'installe, les cheveux blanchissent et le corps s'épaissit. Plus tard, Clara pose en veuve éplorée. Les portraits sont empreints de tristesse, les cheveux sont voilés de noir et une broche serre son col. La jeune fille romantique, surdouée et amoureuse a disparu. Alors où a-t-elle bien pu passer ? Pour le savoir, il faut écouter le documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Doria Zénine, Clara Schumann, compositrice et amoureuse.
Ich stand in dunklen Träumen und starrte ihr Bildnis an. Um ihre Lippen zog sich ein Lächeln wunderbar. Les paroles disent « wunderbar, magnifique ». Sur tes lèvres, j'ai vu un sourire apparaître, magnifique. Et il y a juste ce mot « wunderbar » qui est sur une mesure où on dirait que c'est un ciel qui s'ouvre, un peu à la Turner, avec des couleurs comme ça, vertes, roses, comme un ciel d'aurore.
Elle vous inspire quelle couleur, Clara Schumann ?
Je crois que c'est un vert profond. Un vert émeraude.
Et son visage ?
Eh bien, son visage, moi, je le trouve beau. Un peu long, dit-elle, avec un nez un tout petit peu long. Elle avait des cheveux très blonds enfants qui ont châtaignisé puis bruni et des yeux bleus verts immenses qui lui mangeaient le visage, qui étaient magnifiques. Et ça, jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu ce regard d'eau claire qui était une beauté en soi.
Clara Schumann, compositrice et amoureuse.
Oh, je pense qu'elle adorerait les violettes, Clara Schumann. Elle serait là en train de regarder les violettes et de poser sans doute des questions sur « Ah, mais là, il y aura quoi ?» Et là, c'est une femme qui aimait forcément la nature et le rapport à la terre.
Elle avait une main très grande qui lui permettait de jouer des grands accords et donc d'avoir justement cette capacité aussi à faire sonner l'instrument.
Elle a écrit des leaders qui sont des purs chefs-d'œuvre. Mais est-ce que si elle avait consacré tout son temps à la composition, elle aurait été certainement plus loin dans la composition?
La musique, c'est divin. Dans l'idée, c'est que ça vient des fonds de l'âme, les fonds de la terre, les fonds de la création. Seul un homme peut être l'interprète du divin. C'est pas possible pour une femme.
L'histoire de Clara est celle d'un amour fou, qui n'empêcha ni Robert Schumann, son mari, de sombrer dans la maladie, ni Clara de sacrifier son art pour lui. Clara Schumann est née femme, à une époque où les femmes ne pouvaient prétendre composer. Si elle fut compositrice, et une des plus grandes pianistes du XIXe siècle, c'est Robert Schumann qui était considéré comme le génie. La musique que vous allez entendre est celle de Clara Wieck, devenue Clara Schumann, et qui apparaît ici dans toute sa lumière. Brigitte Françoise Sapet ouvre l'histoire.
Il était une fois une enfant née en 1819 en Saxe, en Allemagne, à Leipzig précisément, qui était la fille d'un grand professeur de piano, Friedrich Wieck, et d'une femme remarquable qui était à la fois pianiste et chanteuse. Elle était donc dans un milieu musical merveilleux. Et puis ses parents divorcent. Et à ce moment-là, son père arrache la petite fille à sa mère et elle est tellement traumatisée qu'elle devient mutique. Non pas muette, bien évidemment, mais mutique, c'est-à-dire qu'elle se renferme en elle, elle ne parle plus du tout, pratiquement jusqu'à l'âge de 8 ans. En revanche, elle est fascinée par le piano, elle joue du piano, elle compose plus ou moins et sa première langue, sa langue natale, c'est le piano, c'est la musique. Son père a veillé à n'en pas faire une virtuose prodige trop tôt, c'est-à-dire qu'à 8 ans et demi, quand Robert l'a entendu, Robert Schumann, elle était déjà prestigieuse, mais on ne la produisait pas vraiment et ça n'est qu'à partir de 10 ans qu'elle a commencé sa carrière de concertiste. À 12 ans, elle vient à Paris, parrainée par le grand Paganini, rien que ça. Et à 12 ans, eh bien, à Paris, justement, elle connaît Mendelssohn, Liszt, Chopin. Elle est tout de suite plongée dans ce milieu extraordinaire. Et à partir de là, eh bien, ce sera une carrière de grande soliste. Ce sera une sorte de petite fiancée de l'Europe, on va dire. Et par exemple, quant à Vienne, en Autriche, elle a un succès extraordinaire pour ses 18 ans. Franz Liszt accourt, parce que c'était lui normalement la grande vedette à Vienne, il accourt pour voir qui est cette jeune fille extraordinaire. Et là, il doit reconnaître que c'est une personnalité hors du commun et à la fois d'une hauteur spirituelle et morale qui est égale à sa virtuosité. Et il lui dédie son œuvre la plus difficile, c'est-à-dire la première version de ses études d'après Paganini, ses études transcendantes, donc d'après Paganini, qui sont une des œuvres les plus difficiles au monde. C'est vous dire à quel niveau était la jeune fille.
Au soir d'un concert, 9 septembre 1838, Clara a 9 ans. Un petit ange est descendu du ciel. Il s'est assis sur le piano et médite ses chants et tout en effleurant les touches, il erre en passant dans le cercle magique, figure après figure, image après image. Il est le vieux roi des aulnes et la tendre Mignon, un chevalier arrogant dans le cliquetis de ses armes et la religieuse agenouillée dans les délices de la méditation. Les hommes qui l'ont entendu l'ont acclamé comme un chanteur digne des plus ferventes louanges, mais sans plus tarder, le petit ange s'est envolé de nouveau vers son ciel.
La rencontre entre Robert Schumann et Clara Wieck s'est passée à Leipzig. Elle avait 8 ans et demi et lui allait sur ses 18 ans. Il a été tout de suite fasciné par cette petite fille miraculeuse qu'il comparait à un enfant ange, un ange musicien, une madone. Et il n'a eu pour idée que d'abandonner ses études de droit, puisqu'il était venu à Leipzig pour ça, et devenir l'élève de Friedrich Wieck, le père de Clara et le grand professeur. Il est devenu effectivement son élève, d'abord dans l'optique de devenir un grand pianiste, idée qu'il a vite abandonnée, et il a été essentiellement un compositeur, d'autant qu'il s'est abîmé sa main, ce qui n'est pas un détail, puisque du coup, les mains de Clara ont été ses propres mains. C'est elle qui jouait sa musique, qui a fait vraiment l'impossible pour l'imposer, parce que c'est pas facile d'imposer à un jeune homme, vous l'imaginez. Et elle était à l'époque infiniment plus célèbre que lui. Sur les affiches, il n'y a qu'à voir, son nom est 10 fois gros comme le sien. Et alors qu'elle aurait pu se fiancer, être fiancée à des célébrités de tous bords, eh bien, c'est quand même ce jeune homme qui était un génie, mais un génie encore plus pas follement affirmé, qu'elle a aimé, et son père donc était absolument furieux et les a séparés. L'idée que sa précieuse et merveilleuse fille puisse épouser quelqu'un qui n'était pas un prince ou richissime ou très connu, ça lui paraissait absolument impensable.
Dresde, le 26 juillet 1838. Mon Robert,
Tu ne seras pas fâchée contre moi si j'ai mis si longtemps à t'envoyer ce mot. Mais je n'ai pas eu une minute à moi, hélas, jusqu'à 11h ce soir. Et je ne puis plus porter de lettres à la poste avec sécurité. Mais je ne vais pas pouvoir te parler longtemps, et j'en suis désolée. Mais j'ai tant pensé à toi et à notre avenir que je présage si heureux. De plus en plus, je sens que ma vie t'appartient. Tout m'est indifférent, sauf mon art. Mon art, c'est toi. Tu es ma vie, ma joie, mon bonheur, tout, tout. J'entends la voix de mon père dans le jardin qui m'arrache à mon joli rêve. Clara.
Yves Henry, voilà, je suis pianiste, concertiste. Ce qui est évidemment intéressant ici, là où nous nous trouvons, c'est que je joue sur un piano Erhard. Et Erhard, c'est une marque sur laquelle Clara Schumann a joué quand elle est venue à Paris.
Qu'est-ce que vous ressentez en jouant cette musique ?
Moi, je trouve que c'est très émouvant parce que c'est une musique qui se développe d'une manière très spontanée. Donc ça prouve qu'il y a un art de la composition extrêmement poussé. Et aussi une grande inspiration, une musique très sensible avec beaucoup de couleurs qui passent, beaucoup de voilà, on sent qu'il y a des sentiments dans cette musique. Si vous prenez le thème qui fait, voilà, ça fait déjà quelque chose. Puis après vous avez, voilà, puis la première qui revient. Que ça parle, ça vous emmène, voilà, et c'est, on revient souvent sur les mêmes mots, on insiste, et puis après, tout d'un coup, ils prennent un autre éclairage aussi.
Alors, jusqu'à ce que Vic les sépare véritablement, en 1836, ils se sont vus, évidemment, et puis ensuite, il y a eu la grande séparation, ils se sont entreaperçus 18 mois plus tard, là, Robert a eu le sentiment que leur amour pourrait durer, il l'a, lui, composé, c'est David Spooner, Tänze, qu'il a appelé Opus 6 pour répondre aux soirées musicales Opus 6 de la jeune Clara. Donc là, il y a une sorte de dialogue amoureux et toutes les œuvres de Robert sont donc codées par les thèmes de Clara, par les lettres musicales de son nom, C-A-A-S. Il va chanter l'amour qu'il a pour Clara à travers deux thèmes de Beethoven, le thème de la bien-aimée lointaine, puisque Clara est pour lui une bien-aimée lointaine.
Alors, Clara Schumann, elle a écrit aussi, c'était évidemment Clara Wieck à l'époque, elle a écrit Mazurka, qui fait ceci, joue juste au début. Donc ça, c'est le début de cette Mazurka, et Robert Schumann a utilisé uniquement les toutes premières mesures. Et il en a fait une œuvre qui dure 30 minutes. voilà. Et juste pour illustrer ce qu'est cette œuvre, qui s'appelle d'ailleurs les Davidsbündler's Tanzen, les danses des compagnons de David, qui commence exactement comme l'œuvre de Clara. Je vais juste vous faire entendre donc ce premier motif. Et puis ça démarre ici. Alors on a l'impression que c'est pas la même musique, mais si vous regardez bien, c'est-à-dire si vous écoutez, le motif fait ça avec le rythme. Donc ce motif de Clara Wieck, quand vous l'écoutez maintenant au début. Vous entendez ça? On l'entend ici. Vous et ça donne tout d'un coup une œuvre complète. Enfin, ça, c'est le tout début, hein. Après, il y a 18 pièces, donc c'est très long. Quand il a entendu cette mélodie, il s'en est emparé, on peut dire. Voilà, donc ça, c'est merveilleux, parce que c'est aussi comme une sorte de réponse, c'est comme un écho, c'est comme un prolongement, on peut dire, à la musique de Clara. Et je pense que pour elle, bien sûr... entendre ce motif repris et incorporé dans une œuvre, voilà, c'est aussi quelque chose d'extrêmement touchant, je pense. Je ne connais pas d'autres exemples. D'un couple dans lequel l'un influe sur l'autre au point que la musique de l'un se retrouve dans la musique de l'autre, ça, je ne connais pas ça.
Leipzig, 6 février 1838. Ma chère Clara, comme j'ai été heureux ces derniers jours, je me sentais jeune, léger, comme s'il me poussait des ailes le long de mes épaules pour me porter près de toi. J'ai voulu te répondre tout de suite, mais les rêves, les méditations, la musique m'occupaient à tel point que je finissais par ne penser à rien. Et je marchais simplement de long en large dans ma chambre en disant de temps à autre « le chant de mon cœur, mon enfant » et puis rien.
20 janvier 1838. Mon cher, cher Robert, je t'appelle ainsi de toutes les forces de mon âme, et je voudrais encore t'appeler mieux et autrement. Que ta lettre était belle cette fois-ci. Ce n'étaient pas des mots que tu employais. Il semblait que tu laissais tomber des fleurs autour de moi, des fleurs délicates, que je me languis de ne pas te voir.
Ce que je préférerais, ce serait de m'exprimer en musique. Car c'est la musique qui traduit le plus fidèlement notre vie intérieure. Aussi est-ce la raison pour laquelle j'ai tant composé pour toi depuis ces 3 dernières semaines. Spartacus, l'histoire d'Egmont, scène familiale avec fête, un mariage, gai, amusant, et toutes les novelettes qui, à cause de ton nom, devraient s'appeler Victen.
Le 23 janvier 1828.
Mais la résonance n'étant pas bonne, je l'ai changée.
Cette lettre sera très longue, mais tu ne m'en voudras pas. Je n'arrive pas à me séparer de toi.
Il me semble que pensée et impression s'entrecroisent pêle-mêle comme des routes à travers mon cœur.
Je voudrais écrire jusqu'à ce que je n'en puisse plus.
Sur lesquelles courent à tort et à travers des ombres qui demandent « Où va-t-on par là ?» Chez Clara, et là, chez Clara, et là, chez Clara. Tout va vers toi. N'as-tu pas reçu les David Stanze ?
Robert Schumann, fiancé, écrit en 1839 à Clara, qui est à Paris. À l'écoute de ta romance, j'ai entendu une nouvelle fois que nous devions devenir mari et femme. Donc il entend cet amour, il entend ça, c'est très, très spécifique. Tu me complètes comme compositeur, de même que moi pour toi. Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique. Nos affinités sont si étranges. Et la même année, il lui promet. Nous publierons beaucoup de choses sous nos 2 noms réunis. La postérité doit nous regarder comme un seul cœur et une seule âme et ne pas éprouver ce qui est tien et ce qui est mien. Il y a quelque chose du mythe de l'androgyne chez eux, c'est-à-dire que avant que les sexes soient séparés, le masculin, le féminin, il y a eu l'androgyne. C'est un rêve d'ailleurs de tout le romantisme allemand d'essayer de retrouver cette notion d'androgyne, et effectivement Clara a été l'autre, entre guillemets, la moitié au sens véritable du terme de Robert, cette moitié qui a innervé son inspiration tout au long de sa vie. N'oubliez pas qu'ils s'appelaient doppelganger, qu'ils étaient l'un le doppelganger de l'autre, c'est-à-dire le double sosie. Et elle signait ses lettres « Dein Doppelganger », donc « ton Doppelganger ». Elle s'est voulu le Doppelganger de ce génie merveilleux qui avait 10 ans de plus qu'elle. Oui, elle l'a voulu.
Et si jamais un jour votre cœur devait fléchir, il briserait le mien, qui n'est capable de n'aimer qu'une fois. Clara.
C'est un vrai conte de fées, tant elle est douée, tant elle a des succès. Et comme tous les contes de fées, c'est dramatique. Qui a lu les contes de Grimm le sait, c'est-à-dire l'horreur est toujours là, quelque part. Et effectivement, ils sont donc séparés. Ils ont de longues, d'interminables fiançailles pendant 5 ans, avant d'arriver au mariage, après 1 année de procès entamé à la demande de Robert, parce que sinon, elle n'aurait jamais obtenu l'autorisation de Friedrich Wieck et ils arrivent au mariage le 12 septembre 1840 après une année terrible de procès et si meurtris l'un et l'autre qu'on sent que les trois premiers mois ils sont complètement affaissés de douleur, il n'y a pas d'autre terme, le journal conjugal, puisqu'ils entament à ce moment-là un journal conjugal qu'ils tiennent alternativement une semaine l'un, une semaine l'autre et on sent que d'abord ce sont des célibataires quand même, lui a plus de 30 ans et elle depuis 2 ans est une jeune fille libérée puisqu'elle s'est fâchée avec son père, qu'il l'a en quelque sorte reniée. Et donc ils ont pris des habitudes de célibataire, mais ils ont 10 ans de différence. Et on sent qu'au début, ils ont quand même un peu de mal à faire entrer leurs deux personnalités dans le même appartement et autour d'un même piano. Ça, c'est difficile.
Je m'appelle Michèle Perrault, je suis historienne et c'est surtout l'histoire des femmes qui m'a retenue. Et le 19e siècle est un siècle profondément contradictoire pour les femmes. Le 19e siècle est caractérisé par une division très forte du public et du privé, comme si c'était des équivalents des sexes. Le public, les hommes, le privé, les femmes. Le centre de la vie des femmes, c'est la maison, c'est la famille, l'intimité qui est considérée comme important, hein, l'équivalent du bonheur. Autrement dit, les femmes seraient les prêtresses du bonheur. Hein. Bon, mais dans ce privé qu'on leur confie, en somme, qu'on leur donne, elles n'ont par ailleurs pas tous les droits. En droit, une femme mariée, la célibataire a beaucoup plus de droits. Hein. Mais dès qu'une femme est mariée, c'est le mariage qui est un peu comme le cadenas de la vie d'une femme.
Robert Schumann, il a eu toutes les compréhensions pour elle tant qu'elle a été sa fiancée. Du jour où elle est devenue sa femme, il avait, comme tous les hommes de l'époque, un certain sens du qu'en dira-t-on, du regard. Et il a un peu moins bien vu qu'elle soit une grande virtuose, qu'elle soit compositrice. Donc, elle a trouvé le subterfuge de lui écrire des œuvres, de lui offrir des œuvres 2 fois par an à Noël et pour le 8 juin, jour anniversaire de son mari. Et il les recevait avec amour et en les admirant, mais en disant qu'une femme, eh bien, doit évidemment se donner à ses enfants, à ses multiples enfants en l'occurrence, puisqu'elle en a eu donc tout au long de cette vie conjugale.
Combien d'enfants alors ?
Elle a eu 8 enfants, 2 fausses couches très très tardives, on peut dire qu'elle a eu 10 grossesses vraiment menées presque à terme, sur 13 années de vie conjugale, ça fait beaucoup. Et sous l'angle de la virtuose, les choses ont été aussi un petit peu en retrait. Schumann lui a composé le concerto en la mineure et le quintet en mi bémol qu'elle était censée alors là jouer dans toute l'Allemagne, éventuellement en Hollande et autres, mais en tous les cas, pas follement loin, elle n'est pas retournée en France. Ils sont allés en Russie, mais ensemble, il l'a accompagnée. C'était une femme mariée, elle avait besoin de chaperon, elle avait besoin de son mari. Enfin là, à ce moment-là, il a tenu quand même à être le mari de madame.
Juin 1841. Mon piano a été encore une fois relégué au second plan, comme il arrive chaque fois que Robert compose. De toute une journée, il ne se présente pas la plus petite heure pour moi, pourvu que je ne sois pas trop en régression. Nous avons aussi interrompu le déchiffrage des partitions, pour peu de temps, j'espère. La composition va tout aussi mal. Par moments, je cognerais volontiers contre les murs ma tête stupide. Maintes fois, j'ai tenté de mettre en musique les poèmes de Rückert que Robert m'a indiqués, mais cela ne marche pas du tout. Décidément, je n'ai aucun talent pour la composition.
Clara Schumann a épousé Robert Schumann par amour, puisque son père, à elle, ne voulait pas tellement qu'elle se marie. Lui, il aurait bien vu, au fond, célibataire et composant. C'est d'ailleurs, au fond, une forme de féminisme, peut-être, d'une certaine manière. Mais elle, elle l'aimait. Elle aimait Robert Schumann. Et la réalisation de ce mariage d'amour, ça, c'est l'objectif de beaucoup de femmes au XIXe siècle. Ceci étant, quelquefois, le mariage d'amour peut se révéler un piège, et un piège encore plus grand, puisqu'on aime, puisqu'on s'est marié par amour, alors du coup, il faut tout donner, hein, et rien garder pour soi, pas de réserve pour soi. Si bien qu'on retrouve Clara Schumann dans cette posture, au fond, on pourrait dire, elle aime Robert, mais elle aime la musique, elle est douée, elle voudrait composer, et elle va y renoncer, au fond. Elle va y renoncer. Que dans une fusion, il y a toujours quelqu'un de sacrifié. Et dans ce cas-là, dans le cas de la fusion dont il rêvait, c'est Clara Schumann qui a été sacrifiée. Parce que dans la fusion, on perd la liberté. On se fond. On abandonne ses propres frontières. Hein. Et ce n'est pas possible en réalité. C'est extrêmement difficile. Où les frontières de Clara se sont effacées devant l'annexion, la fusion. La fusion est devenue annexion. Et c'est dommage.
Clara, regardez. Si, j'en ai deux. J'ai le concerto pour piano, le trio et de la musique pour piano.
On peut écouter celui-là ?
Très bien. Je ressens de la fougue, de la passion, de l'énergie, tout ce qui fait que j'adore cette musique et que je ne connaissais pas cette œuvre et que si j'avais dû mettre le nom de quelqu'un, j'aurais mis Robert Schumann.
Comment vous vous appelez ?
Florentine Mulsan.
J'ai lu que vous disiez, Florentine, que Clara Schumann, c'était une de vos héroïnes préférées.
Oui, c'est une de mes héroïnes préférées parce que c'est une femme qui est allée jusqu'au bout de ses désirs.
Vous avez toujours voulu être compositrice ?
J'ai toujours eu la musique qui coulait en moi, oui, oui.
C'est ici que vous écrivez ?
Oui, c'est ici que j'écris.
Sur un bureau blanc ?
Sur un bureau blanc aussi. Et là, en ce moment, je travaille sur une sonate pour alto et piano. Et voilà, j'en suis là, vous voyez, avec un point d'interrogation. Tout ce que j'ai fait hier, c'est à partir d'ici. Voilà, c'est à partir d'ici avec... l'alto. L'alto.
j'en suis là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà, c'est là. Il y a plusieurs opportunités. Il faut à la fois être parfois très calme et parfois au contraire très, très tendu quand on écrit. Il y a différentes manières de sentir l'énergie.
Comment ça vous vient?
Ah, comment ça me vient? Ça peut être les événements personnels qui font qu'il y a une douleur particulière. J'ai perdu un fils en 2011 et la perte de mon fils de 20 ans a été pour moi un booster d'émotions. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais quand j'ai écrit l'oratorio pour une femme seule, pour grand orchestre et récitante, je pense qu'il était évident que dans ma douleur, j'avais un besoin de faire ressortir cette douleur de maman qui vient de perdre son enfant. Clara, elle a perdu un enfant aussi, il me semble-t-il, dans sa nichée nombreuse. Mon fils Paul avait 20 ans, donc il n'était pas tout petit comme son enfant qu'elle a perdu. Mais il y aurait une compréhension mutuelle entre ce qu'on a ressenti, bien évidemment. Évidemment. Les gens qui ont souffert se sentent à distance, j'ai l'impression. Les gens qui ont eu des grosses épreuves ont finalement un certain optimisme dans la vie et une certaine un certain regard comme un enfant sur un jardin qui est joli. Il y a une certaine fraîcheur de sentiments parce qu'on a beaucoup pleuré, qu'on a beaucoup souffert. C'est la musique qui m'a aidée à effectivement surmonter cette épreuve, comme Clara a pu surmonter cette épreuve grâce à l'amour qu'elle avait avec Robert et la musique. Je pense que Clara Schumann, si elle n'a pas écrit pendant plusieurs mois, c'est que justement, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas écrire.
Et puis arrive un grand malheur, la perte de leur premier fils. Et Schumann, bien que son fils vienne de mourir, Schumann, qui est ravagé par la douleur, se remet à composer aussitôt, le jour même, et Clara s'arrête 5 ans.
Je chante ce lied qui est... C'est une espèce, c'est comme la barque sur le Styx. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a presque rien au piano. C'est des accords qui sont posés comme ça. C'est un lied de... une espèce de roue. Ça tourne comme ça et c'est vraiment très... c'est une prière. À ce moment-là, c'est une espèce de fatalité.
Ça se passait en 1848, elle ne reprend qu'en 1853. La floraison de 1853 est absolument magnifique. Elle écrit dans son journal « Rien ne vaut de composer, il n'y a rien de plus satisfaisant, c'est de plus épanouissant. » Mais c'est le moment où Robert va lâcher, mais pour cause de maladie. Et donc fin 1853, ils posent la plume tous les deux.
Beide nach Köln.
Sie liebten sich beide. Le Lied est très court, il est très noir, très sombre. Il y a même deux passages avec presque une voix de Sprechgesang, c'est-à-dire de voix parlée. Et notamment, donc, c'est ces deux phrases où Sie sahen sich an so feinlich.
Oriane Moretti, soprane.
Et Sie waren längst gestorben. Ils se regardaient avec hostilité. Ils étaient morts depuis longtemps. Et ces deux moments musicaux, c'est comme un soleil qui se pose dans la mer. Et ça me faisait penser au poème de Baudelaire, Harmonie du soir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Donc des couleurs, des couleurs rouges et une texture liquide très forte à ce moment-là.
Février 1854. Dans la nuit de samedi, Robert a ressenti une si violente douleur d'oreille, et cela durant toute la nuit, qu'il n'a pas pu fermer l'œil. Il entendait toujours une note répétée, et en outre parfois un autre son. Cela se prolongea toute la journée. La nuit du samedi au dimanche fut aussi effroyable, également le jour suivant. Puis la souffrance s'apaisa, 2 heures seulement, et reprit encore à 10 heures. Mon pauvre Robert souffre atrocement. Tout bruit résonne en lui, comme de la musique. Selon lui, c'est une céleste musique, émanant d'instruments aux résonances merveilleuses, comme jamais on en entendit sur terre. Mais naturellement, cela l'impressionne, terriblement, et le médecin dit qu'il n'y peut absolument rien. Il a répété plusieurs fois que, si cela ne cessait pas, il en deviendrait fou. L'aube se leva et avec elle un terrible changement. Les accords célestes s'étaient changés en accords démoniaques, joints à la plus affreuse musique. Souvent il se plaignait que l'on fouillait dans son cerveau et qu'on le transperçait. Il me disait adieu. Ce que je ressentis alors, je ne puis le dire. Je sais seulement que ce fut comme si je sentais mon cœur se briser.
Elle notait tout dans son journal, puisqu'elle a tenu un journal toute sa vie. Elle prétend que ce journal est la moitié d'elle-même. Et elle a noté les 3 dernières semaines épouvantables qu'ils ont passées à Düsseldorf. Elle n'a pas dormi, lui non plus, bien évidemment. Et je pense qu'elle essayait de ne pas comprendre véritablement à quel point c'était dramatique et inévitable et irrécupérable. Et elle lui disait, mais Robert, tu veux vraiment nous quitter? Car il demandait à être interné. Lui sentait que c'était vraiment... Et tu veux vraiment nous quitter? Moi, ta femme, tes enfants. Elle n'a pas voulu s'avouer jusqu'au bout. Et alors, je pense que c'est dû aussi à son éducation, à son propre comportement, c'est-à-dire qu'elle a vécu des choses terribles, la séparation de sa mère, la séparation donc de l'être qu'elle aimait, son fiancé, ensuite des choses assez dures avec ses enfants, et pour elle, tout pouvait se maîtriser. Je crois que ce qu'elle n'a pas compris ou ce qu'elle n'a pas voulu comprendre, c'est que là, ça n'était plus une question de vouloir maîtriser, mais de pouvoir, que ça n'était plus possible. Et à ce moment-là, eh bien, Schumann, pourquoi s'est-il suicidé? Parce que je pense qu'un génie n'a qu'une obsession, c'est obéir à son génie. Le génie est plus fort que l'amour qu'on a pour sa femme, pour ses enfants. Le jour où son génie le lâche, où il entend des musiques diaboliques qui donc interfèrent avec des musiques célestes, et bien ce jour-là, il s'immerge dans le Rhin. Il est sauvé, on le met dans un asile, il y passe 29 mois, une agonie terrible. Clara ne vient pas le voir, non pas par désintérêt, elle a demandé 100 fois à venir le voir, mais parce qu'on lui interdit. Et elle ne le revoit que 2 jours avant sa mort. Il était évidemment exsangue et ne pouvait plus parler. Et elle voit son mari mourant.
Thank you.
Er ist gekommen in Sturm und Regen. Ihm schlug beklommen mein Herz entgegen. Wie konnte ich ahnen, dass seine Bahnen sich einen sollten meinen Wegen? Er ist gekommen in Sturm und Regen. Er hat genommen mein Herz verwegen. Nahm er das meine? Nahm ich das seine? Die beiden kamen sich entgegen. Er ist gekommen in Sturm und Regen. Nun ist gekommen des Frühlings Segen. Der Freund zieht weiter. Ich sehe es heiter, denn er bleibt mein auf allen Wegen. Il est venu dans la tempête et la pluie. Il est venu dans la tempête et la pluie. Contre lui battait mon cœur angoissé. Comment pouvais-je pressentir que sa route et mon chemin s'uniraient? Il est venu dans la tempête et la pluie. Audacieux, il a pris mon cœur. A-t-il pris le mien? Ai-je pris le sien? Les deux se sont rencontrés. Il est venu dans la tempête et la pluie. C'est maintenant la bénédiction du printemps. Mon ami est parti. Je suis sereine, car il reste mien sur tous les chemins.
Des nuages et du ciel bleu. Il n'y a pas d'oiseaux, maintenant.
Des fois, il y en a.
Et vous avez une musique dans la tête, là, maintenant?
Non, j'ai pas de musique dans la tête.
C'est un peu frais.
Schumann, je lui ai piqué, c'est dans la tombée du jour. Je trouve ça tellement beau, et c'est aux cordes.
Je m'appelle Graciane Finzi, d'origine italienne, née au Maroc. Et à 3 ans, je jouais déjà du piano. Je voulais être pianiste, l'amour de ma vie est le piano. Je suis rentrée à 10 ans au Conservatoire supérieur, National Supérieur de Paris, ce qui m'a beaucoup servi pour mon métier de compositeur. Et quand je travaille, je crois que le ciel pourrait me tomber sur la tête, je suis très très concentrée.
Alors je vais vous dire comment j'ai rencontré Clara Schumann. Les Schumann, tous les deux, sont des grands amours musicaux de ma vie. Bon, il y a eu une époque où j'écoutais la fantaisie de Schumann, de Robert, tous les matins. À partir de là, j'ai évidemment lu leur vie, leur amour. Leur amour m'a énormément touché. Cette dévotion qu'elle avait pour lui me touchait. J'ai donc été intéressée par sa vie à elle, tout en aimant sa musique à lui. J'ai commencé à connaître sa musique à elle. Et puis un beau jour, je cherchais donc un texte pour mes leaders. J'appelle leader. D'ailleurs, il y a des parties en allemand. Mon leader pour José Van Damme. Et j'ai lu La tombée du jour de Michel Schneider. Et ce texte m'a complètement enthousiasmée parce que Michel Schneider parle de Schumann, parle de Clara, parle de la musique, de l'harmonie, de la folie. Et je me suis dit, c'est porteur, c'est ce qu'il me faut, cette folie, cet amour. Je lui ai donc demandé de me faire un texte et il a situé ce texte à Endenich, qui est donc la fin de la vie de Schumann, où il est interné, où il a demandé à être interné, on ne l'a pas interné. C'est lui-même qui l'a voulu, pensant être vraiment dangereux pour sa famille. Donc, il m'écrit alors ce texte. Clara, pourquoi n'es-tu pas là? 2 ans et demi que je n'ai pas vu tes yeux, senti tes bras. Quand je serai mort et que tu joueras ma musique, ce sera comme si tes mains se posaient sur mon corps. Je ne voudrais pas que ce soit des doigts grattant ma tombe, mais une paume enlevant la nuit de mes yeux. Les cauchemars sont de grands papillons noirs. Je trouve ça magnifique. Moi, les cauchemars sont de grands papillons noirs, ça m'inspire. Ils vous entrent par les yeux à la nuit, ils battent, éblouis au cœur de la vie. Le soir, c'est l'heure où les masques vont au bal. Arrachez les masques, dessous il n'y a personne. Clara. Et ce Clara, il le hurle, José Van Damme, mais c'est pas que... Enfin, la partition est écrite pour que ça donne... Il y faudra beaucoup de neige. Et à ce moment-là, il y a un accord terrible. Et Clara, c'est-à-dire que c'est le cri, le déchirement. C'est un déchirement, ce Clara.
Fin juillet 1856. Je l'ai vu une dernière fois aujourd'hui. J'ai encore déposé quelques fleurs sur sa tête. Il a pris mon amour avec lui. Que Dieu me donne la force de vivre sans lui.
Est-ce que vous êtes identifiée à Clara en tant que femme, en tant qu'amoureuse, en tant que...
Oui et non. Et non, heureusement, parce que mon mari était très équilibré, était au contraire apporté un équilibre que je n'avais peut-être pas forcément. Je l'ai connu très très jeune. Je peux m'identifier. Il m'a même connu dans mon berceau, j'avais 8 jours. Alors évidemment, il m'a dit que je lui ai souri, ça je m'en souviens pas. Mais bon, ça le vexait. Je me suis mariée à 17 ans et demi. J'avais pas encore 18 ans. Et je retournais à Paris, on était à Casablanca à l'époque, et je retournais à Paris pour mes études, et je revenais, et il y avait ces séparations. Alors, c'était pas pour des récitals comme Clara, mais c'était pour terminer mes études d'écriture, et il y avait ces séparations qui étaient douloureuses, parce que j'avais envie de le voir, il avait envie de me voir, on s'écrivait 4 lettres par jour. Mais il était très, très, très... Je dis il était parce qu'il est décédé il y a 1 an, mais c'est évidemment... une solitude horrible, mais je vis avec sa pensée, il est là. Mais je dois dire que lui était l'équilibre, c'est une grande différence. Mais peut-être qu'on peut trouver quand même une relation entre cet amour qu'il y avait entre Robert et Clara et Gilbert et moi. Si je vous en parle, je vais me mettre à pleurer.
Mais je veux
c'est
dire...
difficile parce que c'est très très dur. C'est-à-dire que c'est un manque de chaque seconde, forcément. Mais par contre, on a eu 53 ans de bonheur, donc c'est quand même très différent. Alors vivre sans lui, on se demande comment on peut manger ou on peut rire, parce que ça arrive forcément, comment on peut aller au spectacle, comment on peut vivre tout simplement alors qu'on est dans la peine. Je n'arrive pas à aller au concert. Parce que, vous savez, il y a des œuvres qui vous font déjà pleurer quand on va très très bien. Alors imaginez que j'écoute le concerto de Schumann ou des Lieder ou L'amour à la vie d'une femme ou en ce moment. Donc je n'écoute pas de musique.
An einem lichten Morgen. Un beau matin lumineux, un vif appel sonne dans la vallée. Réveille-toi, fleur aimée, je suis le rayon de soleil. Ouvre-moi, confiante, ton cœur de pétale et laisse entrer l'amour brûlant dans ton sanctuaire. Je ne demande rien d'autre que de m'allonger dans ton giron et de baiser ta corolle avant qu'elle ne fane dans la mousse. Je ne désire rien d'autre que de me reposer sur ton sein et de glorifier ton plaisir radieux.
Zu.
Quand Schumann meurt, je pense que c'est une perte irrémédiable et que personne ne pourra jamais remplacer Robert Schumann. Elle n'était plus que la moitié d'elle-même peut-être, mais ça a été aussi la liberté retrouvée. Elle a pu à ce moment-là, au prétexte réel qu'elle devait élever ses enfants et gagner de l'argent, engager de grandes tournées. Elle est allée 19 fois en Angleterre, elle est retournée en Russie, elle est retournée 2 fois en France. Et se faire applaudir était quand même quelque chose qu'elle aimait. N'ayons pas peur des mots, elle aimait être une star sur une scène et être applaudie à tout rompre. Et très souvent dans son journal, elle dit « je joue de mieux en mieux, je n'ai jamais joué aussi bien, aujourd'hui j'ai été applaudie comme jamais ». Et lorsqu'on va fêter, car on va fêter les 60 ans de sa carrière, puisqu'elle meurt à 76 ans et qu'elle a commencé très 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 tôt, donc... Eh bien, là encore, elle trouvera ça très épanouissant, très euphorique. Enfin, c'est une femme qui a aimé être une très grande pianiste, très applaudie, mais avec le sentiment qu'elle diffusait son art. Je veux dire, à part petite fille, elle n'a jamais joué de petits morceaux de virtuosité pour faire sensation. Elle n'a jamais joué que du grand art, c'est-à-dire Bach, Beethoven, Mozart. Et puis, parmi les vivants ou presque vivants, donc Schumann, Brahms, elle n'a joué que de la grande musique, et notamment la grande musique allemande. Elle a porté cette grande musique allemande.
Toujours je le vois, toujours je l'entends. Et toutes les fois que je joue quelque chose de Robert, c'est comme si un être supérieur guidait mes doigts. Je ne les sens plus. On dirait que tout mon être se fond dans sa musique.
Finalement, il n'y a pas que Robert qui a aussi mis la musique de Clara dans sa musique. Il y a aussi Clara qui a mis celle de Robert
dans la sienne.
Et en particulier, elle a utilisé un thème qui est donc qui date de 1841, un thème de Robert qui est dans les feuillets d'album, une très belle mélodie qui fait ça. Ça, elle va utiliser ce thème dans des variations, opus 20, qu'elle va composer donc justement aussi au moment où Schumann commence à être, commence à partir, non pas à se détacher d'elle, bien au contraire, mais physiquement en tout cas. Et elle va utiliser ce thème pour écrire des variations. Alors, elle va reprendre, bien sûr, in extenso, le thème de Schumann. Par exemple, elle fait des choses comme ça. Très expressif et très bien écrit. Et puis, elle va glisser, et là où c'est très intéressant, elle va glisser dans une des variations, dans la dernière d'ailleurs, un extrait d'un thème à elle que Robert avait utilisé lui-même dans une autre de ses compositions. Je vais vous jouer ce petit thème. Où est-ce qu'il est ? Je m'y perds dans toutes ces partitions.
Il y a un témoignage assez bouleversant d'un de ses petits-fils qui dit qu'il lui a joué justement des œuvres peu avant qu'elle meure et qu'elle a demandé entendre une romance que Robert avait écrite pendant qu'ils étaient fiancés. Une romance où on entend les deux voix internes qui se répondent, qui s'enlacent. Et c'est la dernière musique qu'elle ait entendue en ce monde, justement une romance d'amour de Robert Schumann où leurs deux voix musicales s'enlacent.
Un thème là très enfantin, on peut dire. Et elle va glisser une superposition de ce thème de jeunesse et elle va le superposer avec ce nouveau thème qu'on a entendu. Et elle va le mettre à la main gauche. Ça fait ça. Extrêmement émouvant. Vous entendez le thème de Robert en haut et celui de Clara en dessous. Et elle a réussi à combiner les deux. Et avec l'harmonie, ça fait ça. Ça vient à un tout petit endroit, mais c'est quand même extrêmement symbolique. Vous voyez, c'est une façon de graver ça aussi dans quelque chose qui ne va jamais s'éteindre.
C'était Clara Schumann, compositrice et amoureuse. Avec Brigitte-Françoise Sapet, Yves Henry, Oriane Moretti, Florentine Mulsan, Graciane Finzi et Michel Perrault. Lecture d'Aurélia Petit et Jean-Baptiste Artigas. Merci à Frédéric Triquet, Agnès Boucher, Laurent Lefrançois. Merci au Grand Hôtel de Paris et au Salon Romantique du Château Chanorier de Croissy-sur-Seine. Prise de son François Rivalan, mixage Alain Joubert, coordination Claire Poinsignon et Perrine Kervran, recherche Ina Nathalie Durand, documentation musicale Michael Simon, un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Doria Zénine.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec celui qui a dessiné des fauteuils aux angles arrondis, Pierre Paulin.